Bonsoir, merci beaucoup, cher René. Merci, merci, cher Laurent, de m'accueillir, de nous accueillir au musée d'Aquitaine. C'est un grand plaisir pour moi de venir à Bordeaux. C'est une ville que j'aime beaucoup et puis surtout d'avoir l'occasion d'échanger avec vous pendant. Enfin, je vais parler une petite heure pour qu'on ait un peu de temps pour échanger ensuite, si cela vous convient. C'est aussi un plaisir redoublé dans la mesure où cette semaine est la semaine d'éducation et la semaine de mobilisation sur les questions de racisme dans le monde entier. Vous savez que le 21 mars est la journée internationale de lutte contre le racisme et les discriminations raciales. L'origine du 21 mars est relativement peu connue, en fait. Le 21 mars fait allusion au 21 mars 1960, et un massacre qui a eu lieu en Afrique du Sud, le massacre de Sharpeville, lorsque la police sud-africaine a ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre l'apartheid. Il y a eu 69 morts, notamment beaucoup de jeunes qui ont été massacrés par la police sud-africaine. Et donc, quelques années plus tard, l'ONU a décidé de faire du 21 mars une journée annuelle de mobilisation dans le monde entier, avec évidemment des nuances selon les pays, cela va de soi, et selon aussi les moments politiques. Le Brésil, par exemple, de Lula, était un pays de grande mobilisation sur les questions de racisme. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, avec le président actuel, c'est beaucoup moins le cas. C'est même plus du tout le cas. Donc, ça dépend vraiment des pays, ça dépend des moments. Ça dépend aussi des formes de mobilisation de la société civile. Tout ne vient pas des autorités, tout ne vient pas de l'État. Il est bon, évidemment, qu'en France aussi, nous nous mobilisions sur ces sujets, car ces sujets ne relèvent pas simplement de l'histoire, mais aussi du présent de notre société. Du reste, on pourra éventuellement en reparler si ça vous dit. SOS Racisme a publié une enquête hier sur les questions d'accès au logement, qui est tout à fait révélatrice, hein, de l'existence de discrimination bien ancrée dans la société, dans l'accès au logement. On pourrait aussi parler de l'accès au travail ou encore de relations compliquées avec les forces de police. Et je pense là au mouvement Black Lives Matter, mais aussi à son extension mondiale que nous avons connue à partir de juin 2020. Donc tout ça fait que le moment est évidemment intéressant. Et opportun, je dirais. En réfléchissant à cette soirée, je réfléchissais aussi à la parution de mon ouvrage La condition noire, que René a gentiment mentionné il y a 14 ans. C'était en 2008, et donc une enquête qui était faite entre 2005 et 2008, à peu près, où il s'agissait en fait pour moi de réfléchir à d'abord et de poser les fondations d'une réflexion aussi robuste que possible sur ce que ça signifie que d'être noir, voilà, sur le fait d'être noir, la blackness, comme on dit en langue anglaise. Et cela pourrait paraître comme complètement banal, mais cela ne va pas de soi, particulièrement en France où on s'appuie sur un langage qui est celui de l'universalisme républicain, aveugle à la couleur de peau, et on peut aussi faire référence à l'humanité tout entière, bien entendu, pour indiquer qu'il n'y a pas de race et que l'histoire des races doit ou devrait prendre fin. Elle a une histoire, et cette histoire-là, elle devrait prendre fin. Et donc parler de noir, n'est-ce pas réintroduire au fond une forme de distinction racialisée qu'il faut réfuter à tout prix au nom de la République ou bien au nom de l'unicité du genre humain. Voilà des objections qui étaient des objections extrêmement sérieuses et qui méritaient qu'on s'y attarde. Et c'est pour cela que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de fonder de manière aussi solide que possible, ce que j'espérais de mes voeux, c'est-à-dire une sorte de champ d'étude avec un point de départ qui soit un point de départ qui puisse résister à la critique républicaniste que je mentionnais ou à la critique universaliste relative à l'unicité du genre humain. Car en effet, les travaux universitaires, par exemple, peuvent bien s'intéresser aux Africains, par exemple, aux subsahariens, aux tirailleurs sénégalais, si on devait prendre un exemple historique. On peut s'intéresser à toutes sortes de groupes, mais le groupe défini par sa couleur de peau, lui, pose des problèmes spécifiques. Et en France, on a beaucoup plus de travaux, comme je le notais, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup plus de travaux historiquement sur les Noirs américains que sur les Noirs de France. Comme si cette catégorie-là, noire dans l'espace français, n'avait aucune espèce de légitimité et qu'elle était même un peu suspecte pour les raisons que j'ai dites. Et donc, il fallait se pencher là-dessus. Et ce que j'ai essayé de proposer, c'est une sorte de définition, si vous voulez, qui puisse être aussi résistante que possible et sociologiquement fondée, en partant simplement d'un postulat qui est celui de l'identité subie. L'identité subie, c'est le fait d'apparaître comme tel plutôt que l'identité choisie qui fait référence au feuilletage et à la labilité des identités individuelles et qui peut prendre toutes les formes possibles et qu'il ne s'agit pas de discuter. Et donc mon problème, ce n'était pas celui des identités choisies, c'était plutôt des identités subies. Et donc je suis arrivé à essayer de cerner le groupe que je voulais étudier en disant que est noire une personne qui fait l'expérience de l'être dans sa vie sociale, indépendamment de la manière dont cette personne peut se définir. Et elle peut se définir de toutes les manières possibles. Je ne cherche pas à discuter ce point, ni même à le remettre en cause. Bien entendu, tout est possible et tout est légitime. Mais il faut bien reconnaître que des personnes font l'expérience d'être noire dans leur vie sociale, pas toujours, pas à tous les moments de leur vie, bien entendu, mais cette expérience fait partie de leur vie et qu'il est légitime, par conséquent, de s'intéresser à cela. Et donc, si on a un groupe de personnes qui n'a en commun que cela, c'est ce que j'appelais aussi l'identité fine. Une identité fine, c'est par contraste avec l'identité épaisse, c'est simplement le fait de trouver le plus petit dénominateur commun pour délimiter un groupe. Un groupe que j'ai choisi d'appeler un groupe minoritaire plutôt que de parler de communauté. En effet, la notion de communauté renvoie à des formes d'institutionnalisation qui n'existent pas en France, qui existent dans d'autres pays où les communautés sont très reconnues par l'État et par les pouvoirs publics. C'est beaucoup moins le cas en France, c'est beaucoup plus problématique. Et puis, ça suppose aussi des liens épais, et notamment des liens culturels très épais entre les membres d'une communauté, généralement forgés d'ailleurs dans des expériences qui sont des expériences de souffrance et des expériences d'exploitation et des expériences très difficiles. La question de l'esclavage, par exemple, du côté du monde noir américain, même si ce monde noir américain est beaucoup plus divers aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un siècle, mais la question de l'esclavage, la question de la ségrégation est une expérience fondatrice du monde noir américain qui a créé des sentiments de solidarité extrêmement puissants entre les Noirs américains, des institutions aussi très très puissantes qui font qu'on peut légitimement parler de communauté noire aux États-Unis en raison de l'épaisseur de ces liens qui ont construit dans l'adversité, bien entendu, et on pourrait mentionner tous les travaux culturels relatif, par exemple, à l'importance de la musique, à l'importance des liens familiaux, bien entendu, qui ont construit un monde africain-américain qui a été à même de résister aux épreuves terribles que le monde noir américain a subies jusqu'à aujourd'hui. Et je dis bien jusqu'à aujourd'hui, je pense à ce malheureux George Floyd battu à mort dans une rue de Minneapolis. Si l'on se déplace du côté de la France, donc, nous avons un monde noir qui est un monde beaucoup plus hétérogène, plus récemment arrivé dans ses grandes masses, même s'il y a une longue histoire, du côté de la France métropolitaine, et qui n'a pas construit des liens épais que je décrivais précédemment pour le monde noir américain, même si ces liens existent, notamment d'un point de vue associatif, depuis au moins un siècle. Et donc j'ai choisi de parler de minorité plutôt que de communauté, le terme de minorité enserre simplement des gens qui, à leur corps défendant, pourraient presque t'en dire, nolens volens, si vous voulez, ont en partage le plus petit dénominateur commun d'apparaître comme noirs dans la société française. C'est cela, à mon sens, qui définit la notion de minorité. Et cette notion-là, on peut l'appuyer par des expériences sociales communes. Parler d'expériences sociales communes, d'ailleurs, mérite qu'on s'y attache, parce qu'une expérience sociale commune, ça ne signifie pas une expérience sociale identique. Les membres d'un groupe sociologique donné n'ont pas en partage des expériences absolument identiques. Si vous prenez le groupe des femmes, par exemple, voilà un groupe parfaitement hétérogène du point de vue des positions sociales, des expériences, des positions de classe, pour reprendre le vocabulaire classique de la sociologie ou du marxisme. Le groupe des femmes est un groupe parfaitement hétérogène, et pourtant on peut dire que les femmes constituent bien minorité. Minorité, ça n'est pas au sens démographique du terme, parce que les femmes sont majoritaires dans un bon nombre de sociétés, y compris la société française. Mais c'est une notion politique. Les femmes sont politiquement minoritaires en ce que les femmes sont, à l'évidence, absentes ou quasi absentes, notamment de cercles qui sont des cercles de décision, de la vie politique, de la vie économique, etc., etc. Le jour où il y aura une femme présidente de la République en France, on en reparlera, mais c'est pas encore le cas. Je ne sais pas si je souhaite que ce soit le cas, d'ailleurs, mais peu importe, je suis en train de me dire au moment où je le dis, mais bon, passons sur ce point, malencontreux, excusez-moi, mais à l'évidence, les femmes forment minorité d'un point de vue politique. D'un point de vue historique, d'ailleurs, on peut avoir des rapports démographiques et politiques extraordinairement contrastés. Les situations coloniales, par excellence, sont des situations où le groupe majoritaire d'un point de vue démographique est politiquement minoritaire, mais alors dans des proportions extraordinaires. On peut avoir 95% de la population qui est en situation minoritaire, typiquement en situation coloniale. Et donc le groupe minoritaire relève d'expériences qui sont des expériences non pas identiques, mais des expériences communes. Et qu'est-ce que c'est que le groupe minoritaire noir ? Ben, c'est le fait d'être vu comme tel avec des expériences qui peuvent effectivement être des expériences de violence symbolique ou réelle, des expériences de racisme, des expériences de discrimination, etc. Ça ne signifie pas que toute personne noire, au sens où toute personne vue comme telle, partage et a des histoires de violence raciste subies. Pas plus qu'être une femme ne signifie obligatoirement que l'on a des formes de violence sexiste subies à un moment donné de sa vie. Bien entendu, on peut supposer qu'il y a des femmes qui n'ont rien à dire sur leur vie passée du point de vue de ces expériences-là. J'en doute un petit peu, mais on peut le prendre comme hypothèse, si vous voulez. Si on parle de minorité et si on parle de groupe minoritaire, on ne fait pas allusion à des personnes qui auraient forcément vécu ces expériences, on fait allusion plutôt à des vulnérabilités. Si on reprend le groupe des femmes, certes, toutes les femmes n'ont pas vécu des formes de violence réelles ou symboliques, mais aucune femme ne peut jurer que dans le reste de sa vie, elle ne subira pas, à un moment ou un autre, dans 3 jours, dans 3 mois ou dans 3 ans, une violence en question. Ce que les hommes, eux, ne peuvent pas, les hommes ne peuvent pas en dire autant, en tout cas pas du tout avec le même niveau d'intensité. Et donc les personnes noires n'ont pas des situations identiques à raconter, mais aucune ne peut jurer que dans le reste de sa vie, elle n'aura pas à subir une forme de violence raciste, une forme de discrimination, etc. C'est cela qui, à mon sens, fait cette condition que j'ai essayé de décrire, tout en ne niant pas la variété des situations et en ne niant pas, bien entendu, l'importance des facteurs de classe. La classe sociale est tout à fait importante, mais il me semble qu'on ne peut pas réduire, si vous voulez, la question des inégalités à la question de la classe sociale, même si en France, on a tendance à le faire par une opération qu'on pourrait appeler une forme de réductionnisme de classe, où on résume tout à une question d'argent, si vous voulez, à une question, est-ce que, à une position de classe. Or, la question de la classe sociale est évidemment très importante, mais elle ne dit pas tout des situations sociales. Elle ne permet pas de décrire toutes les formes d'inégalité dans notre société. La question du genre est aussi importante. Elle ne se dissout pas dans la question de la classe sociale. Une femme de classe sociale extrêmement favorisée peut subir des formes de violence ou des formes de, à un titre ou à un autre. Elle n'est pas protégée de façon absolue par ces questions-là ou des formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Et donc la question du genre et aussi la question de la race au sens où cette question-là, non pas où il existerait, il n'existe pas de race au sens biologique, cela va de soi, mais il existe bien des races dans les imaginaires et cela a un effet sur les situations sociales. Et donc, il ne s'agit pas d'opposer la question sociale à la question raciale, il s'agit plutôt de considérer que la question raciale, la question de la racialisation, est une variante de la question sociale, que si l'on veut décrire les positions des individus, il faut bien aussi incorporer autre chose que la classe sociale, même si celle-ci ne doit pas être mise de côté, cela va de soi, il faut aussi considérer d'autres facteurs pour décrire les trajectoires sociales, les positions des individus. Et ça, la sociologie française a eu longtemps beaucoup de mal à le faire, tant elle était centrée sur la question de la classe sociale, avec de très grands sociologues. Par ailleurs, il ne s'agit pas de critiquer leur travail et leurs apports, mais il faut reconnaître que cette sociologie-là a été longtemps aveugle à d'autres questions qui se sont frayées leur chemin de façon plus compliquée et en faisant face à des objections et à des critiques certainement très, très fortes et plus fortes en France d'ailleurs que dans d'autres pays. Donc il existe des Noirs en tant qu'il existe des personnes vues comme telles et on peut à partir de là en faire une histoire. L'histoire des personnes vues comme telles en France métropolitaine, par exemple, depuis le XVIIIe siècle. Pourquoi je dis le XVIIIe siècle ? Parce que c'est le moment où la question se pose. Évidemment qu'il y a des personnes noires depuis toujours dans la France, en France métropolitaine, en France hexagonale. C'est certain, cela. Mais est-ce que la question s'est posée politiquement depuis toujours ? Eh bien non. Elle se pose à partir du moment où la question de la race devient une question majeure dans la manière dont on regarde les autres. À partir du moment où la race devient un marqueur social tout à fait important. Ce n'était pas le cas dans l'Antiquité, par exemple. Dans l'Antiquité, vous pouvez lire les auteurs anciens, eh bien, vous n'aurez pas d'indication sur la couleur de peau. Est-ce que ça signifie que tout le monde a la même couleur de peau ? Non, pas du tout. Ça signifie que ça n'a pas d'importance. Vous voyez ? Ce n'est pas quelque chose d'important. Il y a des historiens de la Rome antique qui s'interrogent sur la couleur de peau de tel ou tel empereur romain de la fin de l'Empire, du côté des empereurs dits africains, par exemple, à la fin de l'Empire romain. Mais personne ne sait quelle était leur couleur de peau. Et parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a d'autres marqueurs sociaux qui ont de l'importance à cette époque. En Grèce, par exemple, en Grèce antique, la question de la langue parler le grec ou pas, ça c'est quelque chose de déterminant pour faire la différence entre les Grecs et les barbares. Les barbares sont ceux qui ne parlent pas la langue grecque. Ou parfois d'autres caractéristiques inattendues. Les cheveux blonds, roux d'Alexandre le Grand, par exemple, ça frappe les auteurs. C'est une anomalie, en tout cas c'est une curiosité que les auteurs remarquent. Mais la question de la couleur de peau, elle n'est pas centrale du tout. La question de la couleur de peau, elle devient centrale pour les humains à un moment de l'histoire. Elle n'est pas consubstantielle à l'humanité. Elle arrive à un moment de l'histoire. Et à quel moment elle arrive ? Eh bien, elle arrive au XVIe siècle, à un moment où les Européens commencent à coloniser le reste du monde. Elle arrive à un moment où des formes d'exploitation organisées par les Européens, à un moment où les Européens, j'allais dire, ont réglé leurs histoires internes, la guerre de 100 ans est terminée, il y a aussi le blocage de la prise de Constantinople, qui joue un grand rôle aussi en 1453, et puis diverses avancées scientifiques, ce qu'on appelle les grandes découvertes, qui permettent aux Européens de se déplacer. Et les Européens se déplacent de manière différente des Chinois. Les Chinois, il y a un empereur chinois qui envoie au XVe siècle une grande flotte pour pour connaître le monde. Et cette flotte, elle va, et elle s'est, finalement, les Chinois ont eu un problème historique, ça a été de contourner l'Afrique. Ils n'ont jamais trouvé le chemin qui permettait de contourner l'Afrique. Donc il y a des bateaux de Chine qui se sont échoués dans l'Afrique de l'Est, hein, du côté de l'Éthiopie. Il y a certainement encore aujourd'hui des Éthiopiens qui sont descendants de ces marins chinois qui n'ont pas pu trouver la route de l'Europe, hein, si je puis dire. Mais les explorations chinoises du monde, c'était des explorations de découverte, pas de contrôle, pas de conquête. C'est assez différent. Du côté des Européens, ce sont des explorations de conquête liées à l'état de l'économie européenne, les besoins notamment en or et en argent, enfin plein de choses comme ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les Européens vont inventer un nouveau langage pour lire l'humanité. Et ce langage pour lire l'humanité, il sépare l'humanité en races. C'est si puissant, ce langage, c'est un langage si lié aux intérêts économiques et politiques des Européens que ce langage va en quelque sorte s'imposer, malgré des voix dissidentes, à l'ensemble des champs de savoir sur les humains, à la médecine, à la physiologie, tout le monde va s'y mettre en quelque sorte. De sorte que les savoirs sur l'homme se réorganisent en quelque sorte et ils se réorganisent autour des questions de race. Jusqu'à en être obsédé d'une certaine manière. Il y a une forme d'obsession qui prend un tour hystérique au XIXe siècle avec la biologisation des races. Alors là, on va mesurer les crânes, on va se lancer dans toutes sortes de théories. Ça se durcit encore par rapport à des interprétations plus environnementales de la question de la race au XVIIIe siècle, où on s'interrogeait sur l'importance du climat, est-ce qu'il fait chaud, pas chaud, etc. Et ça peut jouer sur la couleur de peau, toutes sortes de choses quand même un petit peu plastiques. Au XIXe siècle, ça se durcit avec une anthropologie physique qui va expliquer que les races, c'est quelque chose d'irréductible, qu'on n'y échappe pas d'une certaine façon, avec un langage qui va devenir un langage hyper racialisé à cette époque-là, avec des anthropologues, avec des médecins qui vont discourir, avec des congrès scientifiques, avec une production scientifique qui va être tournée autour de cette question. Et donc la question de la race va devenir absolument centrale à ce moment-là. Et on aurait pu évidemment imaginer autre chose, hein, dans l'histoire des hommes. On aurait pu la question de la racialisation du monde n'était pas une question fatale. C'est arrivé, ça aurait pu être autrement. Et si ça aurait pu être autrement, on peut penser à un monde qui soit un monde déracialisé. C'est bien entendu l'objectif que l'on peut tous raisonnablement avoir. Un monde déracialisé, c'est un monde où la couleur de peau n'a pas plus d'importance que la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Mais convenons qu'on n'en est pas là, très très loin. Que la couleur de la peau, ça compte beaucoup plus que la couleur des yeux ou que la couleur des cheveux. C'est un marqueur tout à fait essentiel. La couleur des yeux, c'est anecdotique. Ça ne dit rien des trajectoires sociales. Vous ne pouvez pas faire une sociologie, je suppose, de la couleur des yeux en France. Vous n'aurez aucune donnée pertinente. Vous voyez, vous n'aurez que des agrégats sans aucune pertinence particulière. En revanche, vous pouvez faire une sociologie de la couleur de peau, bien entendu. Hein, vous ne pouvez pas faire de sociologie de la couleur des cheveux, mais vous pouvez faire une sociologie de la couleur de peau, parce que la couleur de peau, ça veut dire quelque chose. Et ça influe sur les trajectoires sociales. Et donc, ça mérite qu'on s'y attache, qu'on essaye de regarder, et puis éventuellement qu'on réfléchisse à un monde qui soit un monde où la couleur de peau n'est plus d'importance. Ce n'est pas qu'elle disparaîtrait, mais c'est qu'elle n'est plus d'importance. Et qu'on revienne, et qu'on referme cette parenthèse, en quelque sorte. Cette immense parenthèse historique dont je parlais, pour en revenir à un monde où la couleur de peau n'est plus d'importance. Ce qui ne signifie pas un monde sans inégalité et sans tension et sans heurts. Il est probable que les mondes et les tensions et les lectures du monde se reconfigureront autrement. Et ce ne sera pas forcément mieux, un monde déracialisé. Attention, je pense qu'il faut faire attention à ne pas développer un romantisme de la déracialisation, vous voyez, un romantisme du métissage, par exemple. Je suis pour le métissage généralisé, c'est pas le problème, mais ne pensons pas que les sociétés ultra métissées soient des sociétés paradisiaques. Si vous prenez le cas de la Caraïbe, par exemple, ou le cas d'une ville très métissée comme la Nouvelle-Orléans, qui est sans doute la ville la plus métissée des États-Unis, ce n'est pas du tout une ville sans inégalité, une ville sans racisme, du tout. Le Brésil, on en est loin, on est revenu de l'idée du Brésil comme démocratie raciale, c'est ce qu'on disait dans les années 50, hein, un pays paradisiaque, parce que tout le monde est un peu de tout, et donc il n'y a plus de racisme, comme le courrier de l'UNESCO, par exemple, le décrivait dans les années 50 par opposition à l'Afrique du Sud. Or, on sait bien que le Brésil est un pays de racisme fort, bien sûr, et Lula, d'ailleurs, l'a reconnu. Il y a des politiques antiracistes au Brésil, et puis des mouvements d'afro-descendants qui ont revendiqué et qui ont dénoncé aussi les conditions faites aux afro-descendants à la peau la plus sombre au Brésil. Et il suffit de regarder l'hiérarchie sociale, d'ailleurs, pour s'en persuader. Donc, cette question de la race, c'est une question très importante. Elle existe encore. Il faut la saisir à bras-le-corps, en quelque sorte, plutôt que de l'écarter au nom d'un impératif qui serait celui de l'universalité commune, de l'humanité, ou bien d'une république aveugle à la couleur de peau. Bien entendu que les textes républicains sont aveugles à la couleur de peau, fort heureusement, mais ça ne garantit en rien une réalité sociale qui serait conforme aux principes républicains. Il y a les principes républicains et puis il y a la réalité. Et quand on est historien ou sociologue, on ne lit pas simplement ce qu'il y a dans la Constitution, on regarde aussi la réalité. De même que si vous voulez comprendre la société française au début du XXe siècle, vous n'allez pas la comprendre seulement en lisant la Constitution de la Troisième République. La Constitution de la Troisième République, ça vous donne un point de vue normatif sur ce que la société devrait être. Ou bien le Code civil, vous n'allez pas dans trois siècles comprendre le XXIe siècle en lisant le Code civil et en tirant des conclusions sur l'état de la société. Le Code civil, c'est un point de vue normatif sur la société, mais ça ne dit rien du fonctionnement de la société. Si, ça dit des choses, mais ça ne dit rien de ce qui peut se passer, qui échappe par tous les côtés à ce que les codes ou les constitutions peuvent dire. Et donc, il est possible de décrire ces situations sociales, d'en faire l'histoire, de faire l'histoire du monde noir. Je disais la question de la race, je parlais aussi du XVIIIe siècle, parce que c'est le moment où la question se pose politiquement, où le roi s'inquiète du nombre important de personnes noires dans le royaume, notamment à Bordeaux, puisque ces personnes viennent en particulier de Saint-Domingue, surtout du monde de la Caraïbe, plus que directement d'Afrique, mais il y avait aussi des Africains qui venaient au XVIIIe siècle, avec cette question extrêmement compliquée du statut, puisque, en principe, l'esclavage n'existait pas sur le sol de France, le sol de France métropolitaine. L'esclavage y était interdit, comme en Grande-Bretagne, ou par contraste avec l'Espagne, où l'esclavage existait. Et donc, les esclaves qui arrivaient à Bordeaux, par exemple, étaient fondés, en principe, à réclamer leur liberté. Et le tribunal de l'amirauté à Bordeaux ou à Nantes, ces tribunaux étaient encombrés par des demandes de personnes réclamant leur liberté. Et donc, le roi a, à plusieurs reprises, dit « Stop, ça suffit, c'est complication. » Et donc, ça a été jusqu'à la création. D'abord, plusieurs édits royaux tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la création de la fameuse police des Noirs en 1777 avec l'interdiction pour les personnes noires d'entrer dans le royaume de France et des tolérances pour des familles de planteurs, par exemple venant de Saint-Domingue, qui pouvaient venir avec leur domesticité, mais pour des périodes extrêmement réduites et qui devaient s'engager à repartir avec elle vers Saint-Domingue ou la Guadeloupe ou la Martinique, que sais-je. Donc cette question, elle est posée politiquement, c'est pour ça qu'on peut commencer légitimement au XVIIIe siècle si on devait faire une histoire, en quelque sorte, de cette minorité noire en France et puis poursuivre à travers le XIXe, le XXe, la question évidemment de la Première Guerre mondiale, qui est une question absolument centrale, et puis les grandes évolutions de l'après-Seconde Guerre mondiale avec l'intensification et la colorisation, je dirais, de la société française au moment même où la France perd son empire progressivement et de manière évidente et massive à partir de 1960. Donc 1960, c'est évidemment une date très importante, c'est la fin de l'Empire, donc une France qui se réorganise d'un point de vue géopolitique en se tournant vers l'Europe, traité de Rome en 1957, évidemment, et puis un capitalisme français qui a beaucoup moins besoin des produits coloniaux que dans l'entre-deux-guerres, par exemple, qui s'industrialise très fortement et qui se réorganise, et donc la question du monde colonial devient moins importante d'un point de vue économique pour les élites françaises. Tout cela peut se comprendre et s'expliquer. Et puis, à partir des années 60, c'est le tournant avec les accords bilatéraux signés entre le gouvernement français et puis les gouvernements nouvellement indépendants, et aussi au début des années 60, la création du BIMIDOM, cette agence gouvernementale chargée de faciliter l'installation en France des ultramarins, notamment des Guadeloupéens, Antillais, des Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais très peu et Réunionnais, qui s'installent en famille à partir des années 60 et qui ont donc contribué avec la migration subsaharienne à transformer la société française. Elle se colorise donc de façon tout à fait évidente à ce moment-là avec une migration africaine d'hommes. Hein, ce sont surtout des hommes qui viennent travailler quelques années dans le cadre de ce que Abdelmalek Sayad, le sociologue, a appelé la noria migratoire, hein, un phénomène de noria. Et puis, à partir après 1974 et l'arrêt de l'immigration non européenne décidé par Valéry Giscard d'Estaing, dans un contexte de crise économique, des hommes africains, entre guillemets, coincés en métropole, parce que ne pouvant plus, ils pouvaient repartir, mais le cousin, le frère, que sais-je, ne pouvait pas les remplacer poste pour poste. Et donc, il reste, c'est le moment aussi les pays africains traversent des difficultés économiques accrues, il y a des problèmes de sécheresse aussi dans le Sahel, donc ils ont besoin de travailler pour envoyer des revenus à leur famille. Et après 81, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, la réunification familiale et donc une féminisation de la migration africaine en France. C'est très net dans les années 70. La migration africaine est très, très majoritairement masculine et à partir des années 80, ça se féminise progressivement avec l'arrivée de femmes et donc des enfants qui naissent, etc. Et une installation permanente. En France, les foyers Sonacotra, les hommes quittent les foyers Sonacotra pour s'installer dans l'habitat public ou l'habitat privé, parfois l'habitat privé dégradé, bref, l'installation d'un monde stable, stabilisé, franco-africain en France, en plus de la migration antillaise, qui n'avait pas les mêmes problèmes, légaux ou juridiques, puisque les Antillais étaient, et les Réunionnais étaient des citoyens français. Et donc on a tout ce monde-là qui s'est développé de façon extrêmement vigoureuse, avec une géographie qui ne vous surprendra pas. Bordeaux, par exemple, est restée depuis le XVIIIe siècle une ville avec une forte présence noire, antillaise et africaine. Ça a toujours été le cas, pour des raisons liées évidemment au fait que Bordeaux était un port pratiquant le commerce d'esclaves et avec des élites très très fortement connectées au monde colonial. Nantes, Bordeaux vraiment est à part. Nantes a une place plus importante dans le commerce transatlantique que Bordeaux. Nantes a armé beaucoup plus de bateaux que Bordeaux, mais les effets du monde de l'économie coloniale sont beaucoup plus importants à Bordeaux en réalité qu'à Nantes. Donc on pourrait comparer les deux villes, mais peu importe ici, c'est une géographie qui est celle donc de Bordeaux avec des pôles importants historiques, Bordeaux, Marseille par exemple, et puis une géographie qui correspond à la France industrielle, donc par exemple Paris, la région parisienne, la vallée de la Seine avec les usines d'automobiles de la vallée de la Seine, si vous tapez des noms typiquement africains, vous aurez sur la géographie de la France, vous aurez la vallée de la Seine, c'est vraiment frappant et ça correspond aux usines d'automobiles qui se sont installées entre Paris, Poissy et puis Le Havre, les grosses usines d'automobiles des années 60, donc ça c'est assez typique, donc une géographie qui n'est pas une géographie très, très surprenante. qui correspond au centre urbain, au centre industriel du pays et qui compose une population qui ne peut pas être mesurée très précisément d'un point de vue statistique, mais que moi j'avais évalué et les études qui sont parues depuis, on pourrait dire que quelque chose comme 5% de la population française peut, est considéré comme noir et vu comme tel, hein, du point de vue, c'est à peu près ça, même si on n'a pas de recensement national, mais par recoupement, on peut arriver à quelque chose comme 5%, avec des variations énormes, évidemment, selon les lieux. Si vous prenez la ville qui est peut-être la ville la plus noire de France, entre guillemets, c'est, ça pourrait être Saint-Denis, par exemple, hein, en Seine-Saint-Denis. Là, les pourcentages, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais le pourcentage est évidemment très très élevé. À Bordeaux, c'est plus élevé qu'à Angoulême, etc. Enfin, bon, on pourrait faire toutes sortes de commentaires là-dessus. Les questions qui se posent, évidemment, elles ont trait, comme on l'indiquait tout à l'heure, à des situations sociales qui peuvent être très variées, mais qui sont marquées par des expériences, certaines expériences communes. Les expériences communes, ce sont des expériences de racisme subi et de discrimination. Alors, évidemment, il faut faire les différences, comme vous savez, entre racisme et discrimination. Une discrimination, c'est un traitement différencié et illégitime fondé sur un critère bien précis. Il y a 25 critères de discrimination dans le droit français. C'est un droit qui en a, parmi les droits qui en a le plus au monde. Il y a des critères qui n'existent pas dans certains pays, qui existent en France, par opposition au droit américain, où les critères de discrimination doivent être une demi-douzaine à peu près, hein, à une ou deux unités près. Et donc ça veut dire des choses différentes. Par exemple, aux États-Unis, comme critère, il n'y a pas l'apparence physique comme critère de discrimination. Quand on dit apparence physique, ça peut inclure les personnes en situation d'obésité ou de surpoids, disons, qui a des conséquences dans leur vie sociale. Et il y a eu un procès il y a quelques années à propos d'une compagnie aérienne, parce qu'il y a des compagnies aériennes américaines qui, pour les personnes qui ne tiennent pas, si j'ose dire, sur un siège d'avion, ont besoin d'en acheter deux. Et donc, il y a eu un procès parce que ces personnes ont dit « c'est pas notre faute si on a besoin de deux sièges d'avion, et donc vous devez nous permettre de ne payer que le prix d'un siège et pas de deux ». Et la justice américaine a donné raison aux compagnies américaines en disant qu'il n'y avait pas dans le droit américain de critères qui permettaient de donner raison à ces personnes. Tandis que dans le droit français, dans les critères discriminatoires, vous trouverez facilement de quoi permettre à des personnes en situation de surpoids de s'asseoir sur deux sièges au lieu d'un dans un avion d'Air France, pour ne prendre que cet exemple. Il y a la question aussi des femmes en situation de grossesse. Voilà, ça c'est un critère, c'est un critère de discrimination important. Évidemment, en France, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, les députés ont eu aussi une sorte de passion pour ajouter des critères. Il y a eu tout un débat ces dernières années sur l'accent. Comment ça s'appelle, la glossophobie ? Je ne sais plus très bien d'un seul coup. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc, il y a un député qui a proposé qu'on ajoute ce critère-là et qui est un critère donc, qui permette de fonder une action en justice, un contentieux sur la base d'un accent, parce que les accents peuvent être éventuellement problématiques dans l'accès aux biens rares, comme on dit. En tout cas, c'est ce qu'il soutenait. À quoi le défenseur des droits, la défenseure des droits et d'autres spécialistes étaient assez réticents, parce que sur la question de l'accent, ça recoupe en partie la question de l'origine géographique. Et donc on peut faire entrer l'accent dans le critère discriminatoire de l'origine géographique supposée, plutôt que d'en créer un nouveau, parce que quand on en crée de multiples, ça peut finir par diluer l'ensemble dans une masse de critères d'où la justice peut avoir du mal à s'y retrouver. Et surtout, ça dilue, c'est l'inconvénient par rapport au droit américain, c'est que le droit américain antidiscriminatoire, il a d'abord et principalement été fondé sur la discrimination raciale. C'est ça qui est l'élément absolument central dans le droit américain. En France, c'est plus compliqué parce que ce qu'on appelle la discrimination sur l'origine, c'est dans le langage officiel, de fait c'est la discrimination raciale, se trouve enserrée dans un ensemble où cette discrimination sur l'origine est très importante. On le voit bien du point de vue des plaintes faites aux défenseurs des droits chaque année, mais il y a aussi d'autres formes de discrimination, discrimination sur l'âge, qui est très importante et qui est généralement qui est plus populaire, entre guillemets, pas la discrimination, mais les actions en justice sont plus populaires parce que la discrimination sur l'âge, elle a un caractère universel. Tout le monde sera vieux un jour. Et donc, tous les gens se disent, oulala, discrimination sur l'âge, c'est vraiment injuste en pensant à son potentiel d'universalisation. Discrimination sur l'origine, il y a beaucoup de gens qui se disent, ça ne me concerne pas, vous voyez, ce genre de choses. La discrimination pour fait de maladie aussi, ouais, c'est quelque chose qui est très bien vu en général, parce que c'est quelque chose qui a un potentiel universalisable plus fort que la discrimination sur l'origine. Donc il y a toutes sortes de considérations là-dessus. Et puis, évidemment, il y a la question du racisme, qui est assez différente, puisque la question du racisme relève là de l'insulte, d'une violence exercée sur les personnes ou sur des biens matériels. C'est deux choses évidemment différentes. Quand vous envoyez des centaines de CV et que vous n'avez pas de réponse à votre CV, vous pouvez suspecter, vous pouvez éventuellement penser qu'il y a discrimination, mais sans en être sûr, et c'est ça la difficulté, pour entamer éventuellement une action en justice. Si vous allez en justice en disant qu'on n'a pas répondu à vos CV, la justice va vous rironner, bien entendu, car elle va vous demander des éléments de preuve qui vont vers ce qu'on appelle l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a une intention discriminatoire dans la non-réponse à vos lettres et à vos CV ? D'ailleurs, les personnes interviewées qui ne reçoivent pas de réponse à leur CV, généralement, avant de penser éventuellement à une discrimination, elles pensent à elles-mêmes, elles se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ? Qu'est-ce que j'ai dans mon CV qui ne plaît pas ?» Et donc elles vont se dire « ah ben, c'est sûrement que mon anglais n'est pas assez bon, donc je vais faire un stage supplémentaire, je vais me perfectionner dans tel ou tel domaine pour enfin obtenir un emploi comme les autres dans ma promotion, si c'est une promotion, mettons, d'école de commerce. » J'avais interviewé des jeunes femmes il y a 10 ans, des jeunes femmes noires qui étaient les seules à pas avoir, deux ans après, à ne pas avoir d'emploi à hauteur de leurs prétentions, bien entendu. Alors que tous les autres dans la promotion de l'école de commerce avaient obtenu un emploi et qu'elles avaient eu des stages et que ça s'était très bien passé et que le banquier, puisque c'était une banque, leur avait dit « moi je vous aime beaucoup, etc. » mais la clientèle, je sais pas, c'est en Franche-Comté, je me souviens d'ailleurs, mais peu importe, la clientèle n'apprécierait pas forcément, vous voyez, ce genre de choses. Et deux ans après, elles étaient toujours sur le carreau. Alors, pour vivre, elles prennent des emplois, donc ça apparaît pas forcément dans les statistiques du chômage, mais des emplois qui ne sont pas du tout à hauteur de leurs qualifications et des efforts qu'elles ont fournis, bien entendu. C'est pour ça que j'avais intitulé un de mes chapitres, enfin un sous-chapitre, en disant de manière un peu ironique qu'on avait en France les veilleurs de nuit les plus diplômés du monde. Bah oui, ou à l'entrée des magasins, les vigiles, etc. Interrogez les vigiles à l'entrée des magasins, vous serez parfois surpris de voir qu'ils ont des diplômes qui sont très décalés par rapport à l'emploi qu'ils occupent, qui n'a rien d'indigne, mais qui ne correspond pas à ce qu'ils pourraient faire dans d'autres circonstances. Donc cette question-là, c'est une question extrêmement grave. Je vous invite à regarder le rapport de SOS Racisme sur la question du logement. Et vous verrez, ça s'est un peu amélioré, mais on a quand même 48% des, si je me souviens bien, c'était 51 il y a quelques années, je crois que c'est 48% des agences immobilières. Donc les personnes de SOS Racisme se faisaient passer pour des bailleurs en disant, moi j'ai un appartement à louer, mais surtout je ne veux pas de noir ou d'arabe. Voilà, et bien, il y a 48% des agents immobiliers qui disent, ah ben je vous comprends bien, d'accord, on va s'arranger, etc. Alors que c'est illégal, vous voyez, c'est absolument illégal. Et puis il y en a d'autres qui répondent comme il faut en disant que c'est illégal et qu'elles ne peuvent pas faire ça, etc. Mais on a quand même des pourcentages qui sont extrêmement problématiques, de gens qui enfreignent la loi de manière absolument évidente. Alors ça, c'est très compliqué ensuite de les procès pour discrimination, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y a ce problème de l'intentionnalité. Ensuite, quand vous allez aller voir l'agent immobilier, et alors là, il y a le testing, donc on peut enregistrer et faire écouter. Donc là, on peut aller au contentieux. Mais sinon, c'est très compliqué parce qu'ils ne sont quand même pas assez stupides pour laisser des traces écrites. Et donc la justice, elle demande la question, elle demande que l'on prouve, elle demande qu'il y ait bien une intention discriminatoire. Et résultat, les procès pour, par exemple, pour discrimination au logement, souvent ça touche, ça va être une vieille dame qui loue un studio au-dessus de chez elle et qui va dire benoîtement devant le juge qu'elle ne veut pas louer de studio à une personne noire, et on va éventuellement la condamner. Mais vous voyez que c'est anecdotique, ça, qu'il faudrait agir de manière certainement un peu différente. Et vous allez voir ce qu'on peut faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, on patine un peu du côté du droit anti-discriminatoire. Alors, comment on peut faire ? Ben, y a une solution, en tout cas une piste. Ça consiste non pas à essayer de trouver des éléments de preuve intentionnel à la discrimination, même si on peut le faire, par exemple par du testing, comme je l'ai dit à l'instant, mais à partir d'une situation. Par exemple, vous prenez le cas d'un, je ne sais pas, on va prendre une entreprise X et des cadres d'une entreprise en question. Vous allez prendre tous les cadres, ils sont une centaine dans l'entreprise en question. Et vous allez les regarder et vous allez voir 80% d'hommes, mettons, et puis 100% de cadres blancs. Voilà. Okay. Vous allez interroger l'entreprise, vous allez dire, mais est-ce que vous discriminez ? Évidemment que le service de RH de l'entreprise va dire, mais non, bien sûr, on ne discrimine pas, c'est juste qu'on n'a pas les bons candidats qui se présentent. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, on n'y peut rien, on est en bout de tuyauterie, etc. Et donc, vous allez, si vous cherchez à aller au contentieux sur ça, vous n'y arriverez pas. Et donc, il faut inverser les choses. Il faut dire, est-ce que c'est une situation normale d'avoir 80% d'hommes et 100% de personnes blanches dans votre encadrement ? Réponse, non, ce n'est pas une situation normale parce que ça ne correspond pas du tout à la société telle qu'elle est, à l'évidence. Et donc, plutôt que de condamner l'entreprise, vous allez dire, on part de ce qui existe, la sociologie, si vous voulez, de l'encadrement, et on s'engage avec l'entreprise à changer les choses. On dit, vous avez 5 ans pour que ça change, et que dans 5 ans, il y ait une moitié de femmes, et qu'il y ait un peu de diversité dans votre encadrement. Vous voyez, on part de la situation, considérant que la situation est une anomalie. Alors, il faut évidemment qu'il y ait un peu de bonne volonté du côté de l'entreprise. Elle pourrait très bien dire, mais ça ne nous intéresse pas, etc., avec un risque réputationnel d'ailleurs, ça c'est tout à fait possible, mais on part d'une situation donnée pour inverser en quelque sorte les choses, non pas pour chercher la faille judiciaire, mais plutôt pour considérer que la situation actuelle est une anomalie. Et là, je pense qu'il y a moyen de progresser, si vous voulez. Alors c'est ce qu'on appelle, du coup, une notion qui est une notion souvent critiquée, mais qui a quand même un intérêt, je pense. C'est la notion de diversité. La notion de diversité, elle permet de contourner le problème judiciaire de la mise en évidence de la discrimination pour simplement mettre en évidence une situation que l'on considère comme anormale au vu de critères de diversité qui sont des critères que l'on peut considérer comme relevant de l'intérêt général. C'est d'ailleurs en ce sens qu'aux États-Unis, on s'est avancé à partir de 1978, lorsque la notion de diversité a été introduite dans le droit américain à la suite d'une décision de la Cour suprême. Car jusqu'en 1978, les politiques qu'on appelle d'affirmative action aux États-Unis étaient possiblement fondées sur des quotas, des politiques de quotas. Or, la Cour suprême, en 1978, a dit que les quotas n'étaient pas constitutionnels aux États-Unis. C'est pour ça que quand vous lisez dans la presse, etc., qu'il y a des politiques de quotas aux États-Unis, soyez tout de suite vigilants, parce qu'il n'y a plus de politique de quotas aux États-Unis depuis un bon moment, depuis 44 ans quand même. En revanche, la Cour suprême dit pas de quotas, mais la diversité est une bonne chose, par exemple, pour une université qui a intérêt à ce que ses étudiants viennent d'un peu partout, que l'ensemble des États américains, si c'est les États-Unis, soient représentés, et qu'il y ait aussi une part significative d'étudiants africains-américains, latinos, qu'il y ait des femmes, etc. Que, bref, que les étudiants ressemblent le plus possible à la société américaine sans fixer des pourcentages précis à l'avance, sans quotas spécifiques. Et donc la politique de diversité, c'est une politique qui accompagne, en quelque sorte, en partant d'un constat qui est un constat d'anomalie de la situation actuelle. Et là, c'est quelque chose qui de ce point de vue-là, il y a un progrès. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune étudiant, par exemple, le fait qu'à la télévision, il n'y ait que des personnes blanches, c'était quelque chose de normal. Enfin, personne ne se posait la question. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Et puis, la question est apparue comme à partir des... Il n'y a pas si longtemps, en fait, puisque les premières revendications, c'est aux alentours de 2000, avec les premières manifestations autour de France Télévisions et des gens qui publient des articles dans la presse pour dire bah, « c'est pas normal qu'il n'y ait que des personnes blanches à la télévision ». C'était il y a 22 ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Et progressivement, la question est apparue comme étant une anomalie. Les gens se sont dit « mais oui, c'est pas normal ». Parce que la société française, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télévision. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les seules personnes noires qu'on voit soient les joueurs de football ou des chanteurs éventuellement, donc cantonnés à des rôles stéréotypés. Il ne s'agit pas de critiquer ces métiers-là, mais c'est des rôles très, très... Pourquoi on ne voit pas à la télévision un présentateur? Pourquoi on ne voit pas, je sais pas, un médecin s'il est, ou n'importe quel professionnel qui ne soit pas une personne blanche? Comment ça se fait, ça? Vous voyez? Alors là, il faut enquêter dans les organisations, regarder ce qui se passe, etc. Et donc là, on a un levier d'action qui est un levier évidemment très intéressant. Et puis, ça va être un de mes derniers points. Ça soulève évidemment la question de l'affirmative action que j'ai évoquée à l'instant, qu'on appelle parfois de manière déplorable en France des discriminations positives. Le terme de discrimination est problématique, évidemment, puisque tout de suite, ça induit un jugement quand même assez critique sur cela. Alors, il y a des personnes qui parlent d'action positive ou parfois d'affirmative action, en tout cas, de procédures qui, en réalité, n'ont pas forcément à être fondées sur des quotas, comme je l'ai dit, même s'il y a des politiques de quotas dans certains pays, comme au Brésil ou en Inde ou en Afrique du Sud, mais il n'y en a pas aux États-Unis, donc... Donc on peut se passer de quotas et on peut aussi argumenter, il y a toute une pédagogie à faire autour de l'affirmative action. L'affirmative action, ça ne consiste pas à dire qui va arriver premier, deuxième, troisième sur la ligne d'arrivée, si je puis dire. Ça ne consiste pas à déterminer à l'avance la position des personnes. Ça consiste à donner un coup de pouce à celles et ceux qui partent avec un handicap tel... Dans la course, par exemple, à l'obtention d'un diplôme ou d'une école, si vous voulez, pour ne prendre que cet exemple, qui partent avec un handicap tel que la course est réglée d'avance, si vous voulez. Voilà. Et un président américain, Johnson, disait au début des années 60, si vous mettez à courir deux personnes sur la même ligne de départ, mais si une personne vient juste d'être libérée de ses chaînes, n'espérez pas que cette personne puisse courir de la même manière que celle ou celui qui n'a jamais eu de chaîne au pied. Donc il faut considérer qu'on puisse donner un coup de pouce. Ça ne veut pas dire que l'on va déterminer qui va arriver premier, deuxième ou troisième sur la ligne d'arrivée. Moi, je suis prof à Sciences Po, enfin actuellement en détachement, puisque j'ai d'autres fonctions officielles, si je puis dire. Eh bien, à Sciences Po, depuis 2000, il y a un processus de partenariat avec qu'on appelle de convention CEP, avec des lycées qui étaient une centaine jusqu'à ces dernières années, y compris d'ailleurs de la région, je ne sais plus s'il y en a dans la région bordelaise, donc je ne veux pas m'avancer, mais je ne suis pas sûr en fait. Si, c'est le cas. J'ai une hésitation d'un seul coup. Merci. Qui consiste à dire que le concours de Sciences Po tel qu'il existe aujourd'hui, il est trop lesté d'un point de vue social et culturel pour que des jeunes issus de milieux modestes puissent s'en sortir. Il nécessite un capital culturel, pour le dire vite, trop important pour que ces jeunes puissent espérer franchir la barre qui est extrêmement élevée. c'est un concours extrêmement difficile. Et donc, plutôt que de leur dire à ces jeunes, bah, vous avez qu'à vous préparer encore mieux et on va vous aider à vous préparer, Sciences Po a innové il y a 20 ans en disant, en créant une voie d'accès différente, en mettant de côté ce concours et en créant une voie d'accès avec une barre un peu plus basse, bien sûr, et en considérant que c'était le seul moyen d'attirer une jeunesse qui, sinon, n'avait aucune chance d'entrer à Sciences Po. Alors, vous allez me dire, c'est uniquement sur des critères sociaux, tout ça. C'est la classe sociale. On a perdu de vue le sujet. Eh bien, en fait, les lycées en question, ils ont été choisis en prenant en compte le potentiel fiscal des communes, les déclarations de revenus, donc la richesse de la commune, mais aussi la localisation de la commune et le nombre d'enfants par famille et d'autres critères comme ça, qui, à l'arrivée, font que les 150 jeunes à peu près qui entrent par cette procédure à Sciences Po, c'est quand même, c'est pas deux ou trois, c'est 150 à 160 par an, eh bien, parmi eux, il y a une très forte présence, on peut même dire une surreprésentation de jeunes arabes et de jeunes noirs. Et c'est pas un hasard, c'est fait pour. Sauf que on ne peut pas expliciter ces critères-là, bien entendu. Sauf que en choisissant des critères qu'on appelle en anglais des proxys, en choisissant des critères famille, revenus, etc., etc., eh bien, on arrive en fait à surreprésenter des groupes que l'on veut être plus présents dans une institution comme Sciences Po. Donc on avance en crabe, si vous voulez, sur les questions d'affirmative action. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'affirmative action en France. Il y a des procédures d'affirmative action. Je viens d'en donner un exemple. Mais ça n'a pas essaimé comme Sciences Po pouvait l'espérer il y a 20 ans. C'est resté très spécifique. Les écoles normales supérieures, là, je suis dans le conseil scientifique, justement, on a mis au point un système qui consiste à donner un coup de pouce aux boursiers. Et en fonction du niveau de bourse, hein, vous savez, il y a des niveaux de bourse de 0 à 7 pour les bourses du supérieur, eh bien, le coup de pouce est plus ou moins important et gradué selon le niveau de bourse. Et donc ça va permettre à tout un groupe de jeunes qui n'étaient pas loin de la barre d'admissibilité de franchir la barre d'admissibilité. Et ensuite, il y a l'oral, et ils se débrouillent à l'oral, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de coup de pouce à l'oral. Mais c'est fait simplement pour passer la barre d'admissibilité. Et en regardant les données, on s'est aperçu qu'il y avait tout un groupe de gens qui étaient tout près de l'admissibilité, mais qui n'avaient pas franchi la barre. Et quand on regarde de près ce groupe de jeunes gens, eh bien, on voit que ce sont des boursiers, justement. Donc on s'est dit, ben, on va juste leur donner des points pour qu'ils passent la barre de l'admissibilité. Ensuite, on a regardé d'un peu plus près, mais ça, c'est plus compliqué à voir, d'où, de quel lycée ils venaient, de quelle classe préparatoire ils venaient, pour essayer de voir s'ils viennent de classes préparatoires qui ne sont pas les classes préparatoires hyper centrales de Paris ou du lycée Montaigne, peut-être à Bordeaux ou de l'autre lycée, là, je ne sais plus lequel. Caju, c'est ça? Ah, voilà, je suis du coin. Et donc, on a regardé, et on espère aussi, enfin, ça reste à voir, parce que le concours est à venir, là, pour la première fois. Il y a peut-être moyen de penser qu'on aura un peu plus de diversité à l'oral qu'actuellement, mais ce n'est pas sûr, on va voir. En tout cas, on va voir si cet effet sur les boursiers joue. Et puis, le dernier point, donc il y a des formes d'affirmative action. Ensuite, le dernier point, c'est, on dit parfois, ah, mais en France, il n'y a pas de statistiques, fameuses statistiques ethniques. Mais en fait, non, si, ça existe en France. C'est très important de dire que ça existe. Ce n'est pas interdit, comme on le dit parfois, c'est interdit en France. Pas du tout. C'est très contrôlé, c'est compliqué de faire ce genre de statistiques, mais c'est possible. Il faut demander les autorisations à la CNIL, qui est l'instance qui vérifie tout ça, et c'est possible. Par exemple, le CSA, chaque année, publie des statistiques de diversité sur les écrans de télévision. Eh bien, regardez le baromètre du CSA, c'est ce qu'on appelle en France de la statistique ethnique. Vous avez le pourcentage dans la fiction de personnes noires, de personnes asiatiques, c'est à partir de leur apparence. Vous voyez, on ne s'intéresse pas, si j'ose dire, à leur être profond et à qui ils sont. On s'intéresse simplement à l'apparence des gens sur les écrans. Il y a des gens qui font des statistiques et c'est publié. Une statistique, ce n'est pas un fichier, ce n'est pas un nom avec, que l'on peut retrouver. C'est simplement une donnée qui permet de voir si les écrans sont un peu plus colorés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Donc c'est tout à fait possible de faire de la statistique ethnique. Ce n'est pas de la statistique ethnique en réalité, c'est la statistique qui mesure les apparences racialisées de la société, parce que, encore une fois, ça a un effet sur les trajectoires sociales. Et on peut faire ça pour d'autres travaux. Il y a une grosse étude qui avait été faite il y a une quinzaine d'années, que j'avais regardée de très près à cette époque. Et on a téléphoné aux gens et on avait dit quelle est la manière dont vous vous définissez généralement et dans la manière dont les autres vous voient. Est-ce que vous êtes plutôt vu comme noir, blanc, asiatique, etc. Et les gens répondaient. Ils répondaient ce qu'ils voulaient d'ailleurs, puisque c'était au téléphone, donc il n'y avait pas d'hétéro-vérification, c'était ce que les gens disaient. Et puis après, on a pu isoler un groupe de 600 personnes, et puis on en a fait une petite sociologie, on leur a demandé leur diplôme, etc. etc. Ça, c'est tout à fait autorisé. La CNIL, elle demande simplement à ce qu'on détruise les numéros de téléphone, vous voyez, ce qu'on appelle le hachage des données, qu'on ne puisse pas revenir essayer d'identifier les gens. Mais faire des statistiques comme ça, c'est possible en France et on en a besoin pour asseoir des politiques publiques. Si vous voulez lutter contre l'échec scolaire, il vaut mieux avoir des données sur l'échec scolaire. Si vous voulez lutter contre les inégalités de salaire des femmes dans les entreprises, il vaut mieux avoir des données sur ces inégalités de salaire que pas. Ça aide si vous voulez simplement mesurer les choses. Et si vous voulez lutter contre les inégalités scolaires, de salaire des femmes dans une entreprise, vous commencez par constituer un groupe homme et puis un groupe femme, et puis vous regardez les trajectoires, les salaires, les moyennes, etc. Et c'est comme ça qu'il faut faire. On constitue des groupes, et ces groupes-là, ça permet d'avoir des données. Or, sur questions de discrimination raciale, on avance encore à tâtons. Parce qu'on n'a pas d'idées et on n'a pas suffisamment de données statistiques, par exemple, sur les trajectoires professionnelles, sur les salaires, etc. Et ça, il faudrait le faire. Il faut commencer par constituer un groupe de personnes noires. Oui, mais ça ne dit rien de la manière dont les gens sont. C'est simplement l'apparence et la manière dont l'apparence peut jouer dans l'obtention des biens rares. Ça, c'est des données dont nous avons besoin pour la statistique publique, parce que la statistique publique, elle peut asseoir des politiques publiques. Et si on veut des politiques efficaces, il vaut mieux avoir des données pour les asseoir. Moi, je suis incapable de vous dire, si on vous demande est-ce que les discriminations empirent en France ou pas, est-ce que c'est mieux qu'il y a 5 ans, je suis objectivement, scientifiquement incapable de vous le dire. Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas de données qui permettraient de voir les évolutions. Ce serait quand même intéressant d'avoir des données qui permettraient de voir et puis d'appuyer éventuellement des politiques publiques. Donc on dépense un peu d'argent, semble-t-il, pour lutter contre les discriminations. Il y a une instance très importante, c'est la défenseur des droits. Mais quant à mesurer l'efficacité de cela, en réalité, on n'en a aucune idée. Il y a une hausse de plaintes auprès ou de demandes auprès de la défenseur des droits, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de discrimination. Ça peut être aussi plus de prise de conscience de personnes qui se disent « je vais aller constituer un dossier auprès de la défenseur des droits ». Donc ça ne veut pas dire grand-chose, la hausse des dossiers déposés auprès de la défenseur des droits. On a besoin de donner un petit peu plus précises là-dessus, et malheureusement, on n'en est pas là. Voilà, je vais conclure en disant deux choses. D'une part, qu'on est là du côté de la recherche en sciences sociales, mais aussi en histoire. Il y a énormément de choses à faire encore. Il y a énormément de travaux à faire, des travaux, à mon sens, tout à fait passionnants. La situation est un peu différente par rapport à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces questions, parce que ces questions, je pense, sont quand même un peu mieux installées dans la société et à l'université, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résistances très fortes, et il y a, René le rappelait, tout un vocabulaire qui permet de fustiger celles et ceux qui osent s'intéresser à ces questions. Et donc, ce sont des questions qui, tout de même, rencontrent des oppositions institutionnelles fortes. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas confondre la société française avec les représentations médiatiques, avec la scène médiatique. Je pense que la société française, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus hétérogène que l'image qui peut en être projetée sur les chaînes de télévision de nouvelles continues. Par exemple, moi je suis frappé, par exemple, j'étais au salon de Brive, un grand salon littéraire, chaque année à l'automne, et je parle avec des gens localement, etc. Et je suis frappé quand même de voir à quel point la société française, elle est aussi métissée, innervée par des liens avec les mondes noirs en général, avec l'Afrique, avec les Antilles, des gens qui viennent me dire, ah ben, mon gendre vient de telle région du monde, j'ai adopté un enfant qui vient de telle région d'Afrique, que sais-je. Il y a tout ça qui travaille la société française. Et ça, on ne le voit pas si on allume, je ne sais pas, certaines chaînes d'information continues. Donc, moi, je ne suis pas vraiment complètement pessimiste. Je vois bien l'état de la société politique, c'est vrai, mais je pense aussi qu'il y a une société civile en France qui parfois est un peu endormie, parfois un peu ankylosée, mais qui a des ressources qui sont quand même des ressources extrêmement puissantes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas entièrement moroses sur ces questions. Je pense que du côté de la jeunesse, par exemple, il y a des ressources quand même qui sont quand même très, très fortes. Un rejet du racisme que l'on mesure par des sondages. Plus on est jeune, plus on est éduqué aussi. La question de l'éducation est une variable très importante. Plus on rejette les idées racistes. Il y a quand même des éléments qui permettent de ne pas être entièrement morose sur ces questions. Mais évidemment que sur ces questions, il faut aussi des formes de mobilisation, pas des formes partisanes. Moi, j'ai un poste, je suis tenu un devoir de réserve, figurez-vous. Ça va encore. En raison de mes fonctions. Mais on peut quand même théoriser ça en disant qu'il est possible, quand on a des fonctions de ce genre, à la fois de refuser d'être partisan. Au sens engagé dans la vie politique, ce n'est pas du tout mon cas, par exemple, mais engagé. L'engagement, ça ne veut pas forcément dire être partisan, ça veut dire être engagé sur les questions et considérer que le travail universitaire peut aussi avoir des effets sur la société. Ce n'est pas une mauvaise chose si eh bien on aide, si on permet de réfléchir, ou si une exposition permet d'être plus ouvert sur des questions, par exemple, relatives à la diversité ou aux trajectoires migratoires d'une partie de la société française. Je pense qu'il ne faut pas accorder ou en tout cas penser que les musées, par exemple, peuvent tout résoudre. Loin de là, j'en parlais en aparté avec Laurent précédemment. Néanmoins, je pense aussi qu'on a un rôle à jouer et qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans une belle exposition ou dans un livre instructif. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu quand même des raisons d'être modérément optimiste. En tout cas, je pense que rien n'est perdu, loin s'en faut, sur ces questions. Qu'il y a des puissants mouvements dans la société française, qui travaillent à la société française, qui sont des mouvements de long terme, et qu'il faut aussi s'intéresser à ces mouvements-là et pas simplement aux soubresauts de l'actualité politique, y compris lorsqu'elle prend un tour mauvais, comme parfois dans la campagne présidentielle. Donc, on avance quand même. On n'avance pas vite, mais je pense qu'on avance. Merci.
Vous avez évoqué les problèmes raciaux aux États-Unis, mais j'étais curieuse, comme vous avez tiré plusieurs parallèles. Est-ce qu'il y avait des équivalents qui existaient en France? Donc, par exemple, on avait les redlining aux États-Unis qui démarquaient les endroits où les personnes noires pouvaient acheter une maison, pouvaient vivre. Est-ce que ça existe aussi en France ou... Parce que je vois quand même une ségrégation raciale dans le foncier et surtout à Paris, c'est malgré ces idées de mixité sociale, enfin, c'est très marquant. Et puis, ma deuxième question, c'est que. Comment on peut faire une espèce de... Vous avez évoqué le affirmative action, alors que vous n'avez pas évoqué le fait que les personnes qui tirent le plus de bénéfices sont les femmes blanches. Donc, comment on peut faire une affirmative action qui vise vraiment les personnes racisées et qui réussit justement à mettre en avant ces personnes racisées? Merci.
Alors, merci. La première question, elle est importante parce qu'elle permet de différencier la France des États-Unis au sens où en France, il n'a jamais existé de système formalisé de ségrégation comparable à ce qui a existé aux États-Unis entre la fin du 19e siècle et le milieu des années 60. Ça ne veut pas dire que les phénomènes de ségrégation ont disparu aujourd'hui, mais ils sont devenus illégaux à partir du milieu des années 60 aux États-Unis. Pourquoi cela? Eh bien, en raison d'une différence historique entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, le national et le colonial se sont superposés sur le même territoire. L'esclavage a eu lieu sur les territoires des États-Unis, même central, si je puis dire, contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, où l'esclavage a été rejeté dans le monde colonial. Et donc, lorsque l'esclavage a été aboli aux États-Unis, après une brève période, disons, de printemps démocratique, dans le sud des États-Unis, des barrières raciales ont été construites à la suite de diverses manœuvres politiques. Enfin, il y a toute une histoire dans les années 1870-1880. Tandis qu'après l'abolition de l'esclavage en France, en 1848, il y avait l'océan Atlantique. Il était extrêmement difficile, ou de manière extrêmement marginale, pour les anciens esclaves de se rendre en France métropolitaine. Le coût était, et puis le contrôle social également, était prohibitif. Et donc, en France, sauf dans les espaces coloniaux, on n'a jamais eu, on va dire, besoin, entre guillemets, je parle de manière cynique volontairement, de mettre en place des formes de ségrégation, ce qui fait que lorsque les Noirs américains sont arrivés en masse en France pendant la Première Guerre mondiale, c'est le grand moment de la découverte de la France par de très nombreux Noirs américains qui étaient des soldats, ils ont été stupéfaits de voir qu'ils pouvaient s'asseoir à la terrasse des cafés, converser avec des femmes blanches, ce qui était hors de question aux États-Unis. On pouvait risquer sa vie, tout simplement. Cela n'était pas. Et donc, certains sont restés d'ailleurs. Il y a toute une communauté noire américaine qui s'installe à Paris. La France en a tiré une image d'ailleurs très positive dans les années 20, dans la presse noire américaine. On disait qu'en France, on était libre, qu'il n'y avait pas de racisme, etc. On a arrosé la situation française. Il y a de grands artistes noirs américains qui sont installés en France, comme James Baldwin, par exemple, qui arrive en France en 1946 ou 1948, et qui remarque bien qu'effectivement, il y a une liberté. Il est homosexuel en plus, donc il y a une liberté sexuelle qui est plus grande que dans les États-Unis qu'il vient de quitter. Et il décide de s'installer en permanence en France. Enfin, il revient aux États-Unis un peu dans les années 60. Et puis James Baldwin ensuite remarque dans sa vie que, à la fin de sa vie, que les États-Unis ont connu le mouvement pour les droits civiques et que du côté français, il n'y a pas eu d'équivalent, il n'y a pas eu de mouvement pour les droits civiques. Et donc James Baldwin a bien remarqué que s'il n'y avait pas eu en France ces formes institutionnelles de racisme qui ont existé aux États-Unis, eh bien, il n'y a pas eu non plus en France de puissants mouvements de contestation des formes plus insidieuses de racisme qui pouvaient exister, qui n'étaient pas aussi solidement visibles que du côté des États-Unis, mais qui néanmoins existaient et peuvent continuer à exister, puisqu'on en parlait à propos de discrimination dans le logement. Et donc, les études suggèrent, il y a des débats en fait entre sociologues, mais on va dire grosso modo que les formes de ségrégation urbaine en France sont moins accentuées d'un point de vue racial qu'aux États-Unis, c'est toujours le cas, mais néanmoins qu'il existe des formes de ségrégation urbaine en France qui combinent des facteurs qui sont à la fois des facteurs de classe sociale, des facteurs d'accès, des facteurs aussi qui sont des facteurs ethno-raciaux. Les deux peuvent se combiner, peuvent faire des feuilletages et des mélanges qui rendent la situation française certainement différente de la situation américaine, mais néanmoins, on ne peut pas dire que la situation française serait une situation où il n'y aurait pas de discrimination ou pas de forme de ségrégation urbaine. Voilà. Pardon d'être un peu de dire les choses de manière un peu trop contournée. Disons que l'intensité des formes de ségrégation urbaine est plus forte aux États-Unis qu'en France. Voilà, on peut le dire comme ça, en raison de l'histoire que j'ai dite et en raison aussi de quartiers populaires en France qui restent tout de même plus hétérogènes du point de vue de l'origine des personnes que les quartiers, que les grands quartiers noirs, par exemple, qui existent comme à Chicago, dans le South Side. On n'a pas ce type de formation urbaine en France. Les grands quartiers pauvres des banlieues françaises, comme de la banlieue parisienne, par exemple, restent des quartiers plus hétérogènes d'un point de vue, du point de vue des origines, d'un point de vue ethnique, racial et ethnique. Et ce sont des quartiers aussi où je dirais qu'il n'y a pas à ce point un abandon des institutions sociales. Voilà. Ce ne sont pas des quartiers désertés à ce point par des institutions comme on peut l'observer aux États-Unis avec des systèmes scolaires dans les quartiers les plus pauvres qui sont objectivement dans un état moins bon que les moins bons systèmes scolaires français, pour le dire comme ça. Ensuite, vous avez dit sur l'affirmative action, c'est vrai, ce sont les femmes qui en ont bénéficié le plus. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir l'origine de l'affirmative action, parce que les femmes ont été incluses pour que ce soit politiquement acceptable, hein, en fait. Et à l'arrivée, ce sont plutôt les femmes qui en ont bénéficié. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que les femmes, clairement, au début des années 70, étaient très minoritaires dans des mondes qui étaient les mondes universitaires ou dans le monde des élites. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, la situation est un peu différente. Mais vous remarquerez aussi que l'affirmative action est très menacée aux États-Unis actuellement par une Cour suprême qui, je pense, attend la bonne occasion pour démanteler les systèmes d'affirmative action. C'est pour ça que des États réfléchissent d'ores et déjà à des alternatives à l'affirmative action. Donc l'affirmative action actuellement est contestée alors que ses résultats, y compris pour le monde noir américain, sont objectivement positifs. C'est-à-dire que depuis les années 70, l'affirmative action a permis la constitution d'une classe moyenne et d'une classe moyenne supérieure africaine-américaine qui n'existait que de façon extrêmement réduite jusque dans les années 60. Le grand échec de l'affirmative action, c'est qu'on espérait que le monde noir, par exemple, que ça allait tirer l'ensemble du monde noir. Or, ce que ça a fait, c'est que ça a permis la constitution d'une classe moyenne d'élite noire, si vous voulez, mais que ça n'a pas tiré vers le haut le monde noir le plus pauvre. Parce que si vous voulez aller à l'université, encore faut-il finir le lycée pour bénéficier de l'affirmative action. Or, il y a tout un monde de gens qui ne finissent pas le lycée et qui décrochent bien avant la possibilité d'avoir accès à l'affirmative action. Donc l'affirmative action, ça permet de sauver les gens, mais des gens qui sont quand même pas très loin de la ligne de flottaison. Les gens qui sont tout en dessous, ce quart de la population africaine-américaine qui est sous le seuil de pauvreté, c'est à peu près 25%, il n'a pas du tout bénéficié de l'affirmative action. Et il a même été délaissé. On peut même dire qu'objectivement, la situation des Noirs américains les plus pauvres est pire aujourd'hui, qu'elle s'est dégradée par rapport à ce qu'elle était dans les années 60 à cause de la disparition d'emplois industriels moyennement bien payés, mais quand même, à cause de tout un tas de problèmes qui sont arrivés à partir des années 70, y compris les épidémies d'addiction qui ont touché de façon très très forte des grands quartiers noirs comme le South Side de Chicago et qui ont contribué aussi à des formes de désagrégation sociale et familiale qui ont fragilisé les mondes noirs les plus pauvres et également des institutions qui étaient historiquement attachées à ces mondes noirs les plus pauvres, comme les églises, par exemple. Donc le bilan est certainement mitigé du côté de l'affirmative action, mais vous avez raison sur le fait que les femmes en ont profité, et en particulier les femmes blanches.
La question est peut-être naïve, mais je me demande pourquoi les agents de sécurité sont toujours noirs. Et une autre question par rapport au racisme, comment expliquer qu'en Inde, ce sont toujours les plus noirs, les intouchables, qui sont victimes du racisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette couleur noire ?
Eh bien, c'est tout à fait intéressant. Alors, je vais commencer par la deuxième question, c'est-à-dire la question en fait, de savoir si les questions de racisme et de couleur de peau sont des questions qui sont occidentales, liées à la production de ces discours sur la race qui est objectivement, qui trouve son origine en Europe, mais de savoir si ça existe ailleurs et si les discours sur la race se sont diffusés ou bien s'il existe localement, par exemple en Asie, des discours qui seraient indépendants des discours d'origine européenne sur la race et qui auraient des effets comparables. Voyez, ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a par exemple des travaux. Alors, il y a des travaux quand même qui suggèrent, bon, là aussi à grands traits, qui suggèrent quand même que la colonisation du monde par les Européens a eu des effets sur les sociétés locales et a eu des effets sur les représentations des groupes, y compris des représentations racialisées. Et donc que le fait que les plus pauvres des intouchables en Inde aient la peau foncée n'est pas complètement indifférent à l'histoire de la colonisation britannique de l'Inde et des effets que cette colonisation a pu avoir. Il y a eu des travaux intéressants sur le racisme japonais et de savoir si les Japonais ont développé des formes de racisme à l'égard des Chinois qui étaient comparables aux formes de racisme qui existaient ailleurs et qui pourraient faire comprendre d'ailleurs les traitements quasi génocidaires que les Japonais ont infligés aux Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, avec des massacres de masse, des expérimentations médicales, etc., etc. Enfin, le bilan de l'occupation de la Chine par les Japonais est absolument terrifiant. Et donc la question, c'est de savoir si cela est assis sur des représentations raciales qui seraient comparables aux représentations raciales que, au même moment, les alliés des Japonais, je veux dire les nazis, pouvaient avoir du côté de l'Europe. Et alors là, il y a des travaux qui sont assez passionnants, en fait, qui impliquent à la fois la diffusion de l'anthropologie européenne vers le Japon, puisque au Japon, on commence à ouvrir des musées d'anthropologie sur les noms, par exemple à Taïwan, à Taipei, sur les populations non chinoises, les populations d'origine mélanésienne qui vivent au centre de l'île de Taipei. Donc tout un langage anthropologique. Sans doute le racisme, disons, anti-chinois des Japonais est quand même un peu différent parce qu'il n'a pas la même assise raciale que l'antisémitisme des nazis ou les hiérarchies raciales des nazis. Il me semble, pour avoir lu simplement, c'est de la seconde main ça, que le langage des Japonais, c'était plutôt un langage sur une Chine, des Chinois qui seraient tombés de leur ancienne civilisation de splendeur et qu'il faudrait en quelque sorte réanimer par l'occupation japonaise. Et donc on peut localement comme ça faire des interprétations, mais il est sûr que je ne connais pas beaucoup d'endroits dans le monde où la peau foncée donne des avantages de façon objective. Il y a quand même quelque chose là. Je ne parlerai pas d'un universel parce que ça renverrait à un fatum, à une espèce de destin de l'humanité qui n'est absolument pas le cas. Mais quand même, il y a quelque chose là qui est assez évident. Peut-être aurez-vous d'autres idées de ce point de vue-là. Sur les veilleurs ou sur les gardiens, il y a un mélange de choses. C'est à la fois des métiers accessibles et puis il y a aussi des représentations qui sont des représentations racialisées de ceux qui vont considérer que une personne de sécurité noire aura supposément des qualités physiques qui la prédisposent à ce genre de travail. Et donc il faut aussi prendre en compte les stéréotypes racialisés qui portent sur les personnes noires, en l'occurrence, et qui vont mettre en lumière ou au premier plan des qualités physiques supposées qui sont par ailleurs supposément corroborées ou validées par le sport, qui donne une image de résistance, de force, etc., qui peut assez aisément se déplacer dans des mondes professionnels qui ne sont pas ceux du sport, mais qui sont ceux d'une certaine forme ou d'une certaine force physique qui peut s'apparenter aux qualités sportives. Et donc là, j'incriminerais très volontiers les stéréotypes qui pèsent sur ces personnes et qui leur attribuent des qualités qui ont leur revers, bien sûr, puisque ces personnes supposément fortes et musclées sont supposément aussi des personnes qui ne pourraient pas exercer d'autres fonctions où l'intellect, par exemple, je ne sais pas, serait un peu plus en jeu. Donc là, voilà un bon exemple des stéréotypes qui peuvent peser sur les personnes, me semble-t-il.
Déjà, une petite remarque, vous parliez de stéréotypes, moi je pense que ce serait intéressant de citer Stuart Hall, qui a beaucoup étudié la représentation, et notamment donc, le double tranchant du stéréotype, et justement en étudiant les sportifs et la représentation du sportif noir en Angleterre, et du coup de ses origines aussi caribéennes. Ma question est portée plutôt sur donc, le futur de la recherche en sciences sociales, vous aviez parlé de plusieurs domaines qui seraient intéressants, et je pensais notamment à l'intersectionnalité, puisque vous parliez de la féminisation de la migration, et ça me semble un sujet contemporain et très utile, notamment puisqu'on parle de féminisme noir, et Bell Hooks est décédée aussi récemment. Donc, qu'est-ce que vous pensez aussi de ce futur là, dans la
J'aurais dû en parler, en effet. Si j'avais dû écrire aujourd'hui, là, donc, si je devais ajouter un chapitre au livre que j'avais consacré au monde noir de France, j'ajouterai un chapitre sur les questions de genre qui n'étaient pas aussi apparentes il y a une douzaine d'années. Et donc, évidemment, les questions liées au féminisme noir, au black feminism, qui ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et les questions d'intersectionnalité, c'est-à-dire la manière dont on peut croiser les critères ethno-raciaux et les critères de genre pour décrire les situations. Et l'intersectionnalité, ça ne consiste pas à juste empiler les discriminations, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué, c'est d'examiner les effets que le genre et la race peuvent avoir l'un sur l'autre. Il peut même y avoir des situations où les femmes noires sont moins discriminées que les hommes noirs. Ça peut arriver. C'est pas juste un empilement de discrimination. Et donc, ce sont toutes ces interactions que les études dites intersectionnelles permettent d'étudier. Et donc, moi, je trouve que c'est absolument nécessaire. Je trouve parfois incompréhensible les critiques que l'intersectionnalité peut subir, critiques qui viennent de gens qui, à l'évidence, ne savent pas de quoi ils parlent. On parle parfois de choses qui me semblent relever du béaba des sciences sociales. L'intersectionnalisme, c'est le béaba des sciences sociales. Donc j'y suis complètement favorable, et je pense même que là, il y a aujourd'hui une génération de jeunes femmes noires très très présente un peu partout, y compris dans le monde universitaire, et c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a certaines des idées et certains des travaux les plus intéressants.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises le monde du sport, et donc si on fait le constat que dans les sports, notamment bon, le sport le plus connu, c'est le foot, il y a une majorité de joueurs noirs. On peut considérer que c'est une façon d'obtenir une promotion. Et moi, il y a une chose qui me choque, c'est que pour la plupart d'entre eux, ces personnes-là épousent des femmes blanches.
Et pourquoi ça vous choque ?
Je trouve que c'est discriminant par rapport aux femmes noires. C'est-à-dire que pour le summum de la gloire et du milliardaire footballeur ou du millionnaire, je ne sais pas, c'est d'avoir à côté de lui une femme blanche. Et moi, je me dis que c'est bien trop d'honneurs qui leur sont faits.
C'est drôle ce que vous dites, parce que dans le monde africain-américain, y a, notamment dans le monde de la chanson, il y a beaucoup de chansons chantées par des chanteuses africaines-américaines qui se plaignent justement de ça, c'est-à-dire d'une sorte de concurrence sur le marché matrimonial, on va dire les choses comme ça, qui fait que donc c'est ce qu'elles disent, c'est que des hommes noirs qui réussissent, etc., élargissent du coup leur marché matrimonial au-delà des femmes noires et du côté de femmes blanches, asiatiques, etc. Alors que les hommes noirs dont la situation sociale est plus modeste ont un marché matrimonial qui est plus restreint à leur groupe, si je puis dire. Vous voyez, on peut penser comme ça en termes de marché. Évidemment, on a toutes sortes de statistiques là-dessus aux États-Unis. On n'a pas de statistiques en France. Je vous le rappelle sur ce sujet. Alors, on pourrait répondre de toutes les manières possibles en disant que heureusement qu'on peut vivre avec celle ou celui que l'on veut. Enfin, en tout cas, qu'on peut l'espérer. En tout cas, que c'est en tout cas quelque chose qui n'est pas en soi un problème particulier. On peut aussi raisonner, comme je le disais, en termes de marché matrimonial. Je remarque aussi que du côté des femmes, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les femmes noires qui réussissent aux États-Unis n'élargissent pas leur marché matrimonial de la même manière que les hommes noirs qui réussissent. Ce n'est pas symétrique, si vous voulez. Et donc, le taux de femmes, le pourcentage de femmes noires qui épousent, par exemple, des hommes blancs, est très nettement inférieur au pourcentage d'hommes noirs qui épousent des femmes blanches. Voilà. Et ça ne relève pas de goût, si je puis dire, ou d'inclinaison particulière. Ça peut relever, justement, du marché. Les femmes noires, par exemple, c'est un vrai problème aux États-Unis. Elles réussissent beaucoup mieux à l'université que les hommes noirs, et donc elles ont du mal à trouver des partenaires masculins du même niveau scolaire. Les hommes noirs qui réussissent à l'université, qui ont des positions sociales enviables, on va dire, eh bien, on accès à une palette plus large, si je puis dire. Et donc, il y a des études très intéressantes qui montrent que les femmes noires aux États-Unis, souvent épousent des hommes, quand elles épousent des hommes noirs, ce qui est le cas le plus souvent, épousent des hommes noirs qui sont un cran en dessous, si vous voulez, par rapport à la réussite qu'elles-mêmes ont pu avoir via les études. Donc on peut raisonner en termes de marché.